Bonjour à tous et merci d'être avec nous. L'info locale et régionale sur Calade. Au sommaire de notre édition. Conformément aux annonces de l'État dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 et comme dans toutes les villes de France, Mâcon applique des mesures de précaution afin de garantir la sécurité de tous. Des mesures vont être également déployées pour limiter les répercussions économiques et sociales pour la ville. Nous avons joint par téléphone Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon. Puis l'Afrique, face elle aussi à la pandémie, nous avons joint par téléphone Benjamin Jaïr, mobilisé depuis de nombreuses années sur des actions d'entraide au développement sur le continent africain. Calade, le journal. Dans une tribune pour le journal Le Monde, Cyril Dion, écrivain et réalisateur du documentaire de Demain, entre autres, nous invite à la réflexion, notamment sur la crise du Covid-19 qui peut nous aider à construire le monde d'après, nous dit-il. Les leçons du chaos que nous traversons doivent nous permettre de rebâtir une société plus juste et plus viable. Et surtout, de mieux appréhender un autre grand danger, le dérèglement climatique, estime l'écrivain cinéaste. Depuis que la majorité d'entre nous est confinée, les réseaux sociaux crépitent, appelant à faire de cette pause forcée un moment de réflexion collective sur ce que sera l'après-coronavirus. Le président de la République lui-même s'est risqué dans son allocution télévisée à affirmer qu'il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle de développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour. Oui, il y aura beaucoup de leçons à tirer. L'impréparation de nos pays qui ont ignoré les alertes de nombreux scientifiques. L'abandon de systèmes de santé qui crient de longue date leur manque de moyens, la prime à la rentabilité sur la santé. Mais tirer les leçons de cette crise peut aussi nous aider à préparer l'après. Le dérèglement climatique couplé à la 6e extinction de masse des espèces, car le chaos que nous vivons n'est sans doute rien en comparaison de ce que nous pourrions traverser, livré aux conséquences du péril climatique. Les dernières estimations des plus grands laboratoires français de climatologie sont terrifiantes. Elles prévoient une augmentation de la température de 2 degrés Celsius en 2040. Les rendements agricoles pourraient avoir chuté de 70%, créant des émeutes de la faim. La forêt amazonienne se transformerait en savane. Des pays entiers deviendraient inhabitables, propulsant des centaines de millions de réfugiés sur les routes. L'eau viendrait à manquer, de nouveaux virus feraient certainement leur apparition. L'élevage intensif et la destruction de la biodiversité. Lorsqu'on mesure la panique et les déstabilisations que le nouveau coronavirus a créées, il ne faut pas être devin pour imaginer ce qu'il adviendrait du monde. Article du cinéaste Cyril Dion, réalisateur du documentaire « Demain » dans une tribune pour le journal Le Monde. Conformément aux annonces de l'État dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 et comme toutes les villes de France, Mâcon applique des mesures de précaution afin de garantir la sécurité des habitants. De nouvelles mesures vont également être déployées pour limiter les répercussions économiques et sociales pour la ville de Mâcon afin de préparer la sortie de la crise sanitaire du Covid-19. Nous faisons le point par téléphone avec Jean-Patrick Courtois, maire de Mâcon. La réouverture le 11 avril, si je ne m'abuse, du marché principal de Mâcon, c'est ça ?
Tout à fait. Ainsi, deux marchés dans les quartiers. On a obtenu du préfet l'autorisation d'ouvrir ces trois marchés.
Oui, parce qu'effectivement, il fallait demander une autorisation un peu particulière.
Oui, tout à fait. Je veux qu'on explique qu'on avait créé un marché, enfin réouvrir le marché que sur l'aspect alimentaire, c'est exclusivement, sur un espace qui serait tout à fait contrôlé, ce qui fait que nous avons une entrée, une sortie. Lorsque les gens arrivent, on les fait rentrer, mettant pas plus de 100 personnes sur le marché, donc on contrôle l'accès. Lorsque les gens arrivent, bien évidemment, on leur lave les mains, on peut leur donner un masque s'ils le souhaitent, ils font leurs courses et quand ils ressortent, on leur relave les mains.
Quelles sont les raisons, effectivement, que vous avez fait ce choix de vouloir maintenir ces marchés ?
Il y a un certain nombre de raisons. La première, c'est que le marché de Mâcon, c'est, j'allais dire, quelque chose d'ancestral. C'est une coutume depuis très très longtemps et que les Mâconnais y étaient très attachés. Deuxièmement, ça permettait aux producteurs locaux de pouvoir venir vendre leurs produits, ce qui est aussi très très important. Troisièmement, ça permet à certaines catégories de personnes d'avoir des marchandises à des prix défiant toute concurrence, surtout en fin de marché. Et puis enfin et surtout, à mon avis, c'est moins risqué que dans les supermarchés, puisqu'il n'y a pas d'air conditionné, il n'y a rien, vous êtes un espace libre.
Sur cette période de crise, j'imagine, quelles ont été les choses les plus urgentes peut-être à mise en place lorsque l'on est à l'édile de la ville ?
C'est-à-dire, on a instauré un système pour voir que de surveillance, de faire que les gens, mais globalement, les gens respectent tout à fait les mesures de confinement. On a quelques petits débordements, mais pas significatifs. Donc on surveille que les choses se passent bien, mais surtout après, on s'est occupé des personnes les plus fragiles, des personnes âgées ou les personnes malades par l'intermédiaire du CCAS. On a instauré un système d'appel téléphonique, on a fait un mouvement qui s'appelle Macon Solidaire, où des centres de personnes peuvent faire les courses pour le compte de ces personnes-là, leur rapporter, notamment les produits pharmaceutiques ou bien évidemment les produits alimentaires.
Donc ça, ce sont pour nos seniors, pour les familles les plus démunies peut-être également. Il y a des...
Oui, c'est le même système, c'est tout fait par l'intermédiaire du CCAS. Si vous voulez, je me suis servi de ce qu'on appelait le plan canicule, qui avait été mis en place avec tout un numéro de téléphone. On l'a étendu à cette période-là que l'on connaît du confinement.
Des associations également humanitaires.
Bien évidemment, on travaille avec toutes les associations, que ce soit Le Pont, que ce soit la Croix-Rouge, que ce soit toutes les associations caritatives que l'on connaît, bien évidemment, la ville de nuit aussi, naturellement.
Concernant les structures de santé, j'imagine que là aussi, il y a des mobilisations qui se sont faites.
Oui, c'est ça, bien sûr, l'hôpital EHPAD. D'ailleurs, pour permettre au personnel soignant de pouvoir venir travailler, on a rouvert quelques crèches pour leur permettre de mettre leurs enfants pour ceux qui ont des petits-enfants, et puis une école primaire, une école maternelle dans la ville de Mâcon. Mmh.
D'autres peut-être éléments importants qu'il faudrait souligner, que la ville a pris en charge, bien sûr.
Nous, par exemple, on avait des masques, on en a donné 36 000 à l'hôpital de Mâcon. Je viens d'en racheter 50 000 qui normalement devraient arriver début mai ici à la ville. Et on espère faire un certain nombre d'actions de ce type-là. Et puis on va bien sûr surveiller les mesures que le gouvernement doit annoncer dans les 15 jours qui viennent pour sortir du confinement. Et bien évidemment, on appliquera toutes les directives et on s'emploiera à faire que cela marche. Et puis on a fait des actions importantes sur le domaine de l'économie. J'ai suspendu, par exemple, tous les loyers des commerçants qui étaient locataires de la ville de Mâcon. J'ai suspendu tous les droits de place et j'ai suspendu aussi tous les droits publicitaires.
Alors, puisque nous sommes effectivement sur la question de l'économie, notamment au niveau de nos entreprises, les plus petites peut-être ou les moyennes, comment ça se passe sur Mâcon? Déjà, est-ce que effectivement ces entreprises sont solidaires pendant cette période de crise? Et puis, évidemment, les autres qui sont un petit peu plus dans la difficulté?
Bien sûr, donc toutes les entreprises sont fermées. On a une action avec le Conseil régional de Bourgogne pour leur aider dans les plus petites entreprises. En général, c'est les petits commerces, les petits artisans, de pouvoir leur donner une somme d'argent. Donc ça, l'action vient d'être décidée par le Conseil régional et l'agglomération dont je suis président vient de s'associer et mettra des crédits à disposition aussi de ce fonds de solidarité. Et puis parallèlement, l'agglomération va voter un crédit pour aider les unions commerciales, ce qui fait que lorsque le confinement sera terminé, on puisse faire des grandes actions dans les centres-villes et centres-bourgs de nos villages pour ramener les clients auprès de ces commerçants.
Alors, la question effectivement de la réouverture des écoles le 11 mai, ça c'est tout frais, j'allais presque dire. Qu'est-ce que vous en pensez
J'appliquerai les directives. Maintenant, ce qu'il faut qu'on attende exactement les demandes du gouvernement, je pense qu'ils ne vont pas rouvrir toutes les écoles le même jour. Il y aura sûrement un protocole sur 10 ou 15 jours pour ouvrir les écoles, donc on verra ce qu'il faut faire, ce qu'il convient de faire, mais on s'adaptera bien évidemment.
Le maire de la ville de Mâcon a également annoncé au cours d'une conférence de presse ce mardi en matinée des mesures pour aider les entreprises et les commerces. La ville reste également mobilisée pour assurer les services au public et aider les personnes fragiles. L'Afrique face, elle aussi, à la pandémie. De nombreux cas déjà confirmés de coronavirus. Nous avons joint par téléphone Benjamin Jaïr, mobilisé depuis de nombreuses années sur des actions d'entraide au développement sur le continent africain et plus particulièrement au Sénégal et au Gabon.
Bien sûr, donc on a quelques ressortissants français qui sont coincés dans certaines grandes villes comme Dakar ou Ziguinchor. Quelques amis aussi sénégalais qui vivent en France et en Italie qui sont repartis voir leur famille cet hiver et qui sont coincés aussi dans certaines villes et villages. Et puis au sud du Sénégal, en Casamance, on a un projet agricole en permaculture avec lequel justement on entretient des relations étroites quotidiennes. Et un autre projet là qui se développe au Gabon, où effectivement le corona est arrivé aussi, et puis des amis de longue date là, qu'on a au Burkina Faso. Voilà.
Alors, le Sénégal a enregistré son premier cas de contamination, je ne vais pas dire de bêtises, le 12 avril, c'est relativement proche de nous. Hein. Qu'est-ce que l'on vous a pu vous apprendre, plus particulièrement les personnes, comment ils voient les choses là-bas?
Alors, dans la grande ville de Dakar, donc là, apparemment, on en est au deuxième décès, même maintenant, à l'heure où on parle. Il y a une certaine habitude des pandémies ou des épidémies, en tout cas avec une certaine expérience du choléra notamment, même encore ces dernières années, dans les quartiers HLM ou les quartiers plutôt considérés comme bidonvilles, c'est-à-dire des quartiers qui sont souvent inondés. Donc il y a une certaine habitude à justement rester chez soi et à éviter les grands rassemblements publics. Donc là, ce qui a été mis en place rapidement par le gouvernement, c'est de fermer les marchés, parce que pour ceux qui ont l'expérience d'aller dans des marchés, en Afrique, il y a une grande promiscuité et puis beaucoup, beaucoup d'étals. Et les gens sont très serrés. C'est un peu comme des souks dans le Maroc, par exemple, où on passe entre les étals et on passe à une ou deux personnes maximum en se touchant tout le temps. Donc là, ils ont assez bien réagi et rapidement en fermant les marchés. Et puis aussi, les lieux de culte qui sont dans le quotidien des Africains musulmans, des lieux de rencontre chaque jour et plusieurs fois par jour, eh bien, ont été fermés tout de suite après l'annonce, en tout cas, de l'épidémie sur le territoire.
Comme chez nous également, les écoles, les lieux où de rencontres également, je pense aux boîtes de nuit ou ce type de choses, effectivement, là où il y a du monde dans tous les cas, comment ça se passe et comment réagissent finalement les Sénégalais à ce confinement, j'imagine. On a proclamé le confinement.
Oui, effectivement. Alors, il y a deux types de lieux parce qu'il y a souvent deux types d'horaires. Et c'est ça la grande différence avec chez nous, c'est que les écoles ont été fermées tout de suite, le milieu scolaire d'une manière générale, la journée. Et puis, pour tout ce qui concerne le soir, et on sait qu'en Afrique, on vit beaucoup la nuit, beaucoup en tard le soir, parce que c'est là qu'il fait le moins chaud, hein, tout simplement. Et bien là, c'est un couvre-feu directement qui a été installé, puisque malheureusement, dans ces pays, et je pense aussi au Burkina, à mes amis du Burkina là-bas, on a l'habitude justement des couvre-feux. Et là, donc, de 20h le soir à 6h du matin, le couvre-feu est installé. Et du coup, là, c'est même pas possible de sortir. J'avais le témoignage là d'une amie, Astou, qui m'a envoyé un vocal hier, pour me dire que les gens se faisaient taper, dès qu'ils étaient attrapés, la nuit, dehors.
Très bien, donc c'est assez rigoureux, on va dire même peut-être un peu militaire, non, comme un petit peu.
Oui, c'est ça, hein. L'Afrique, elle a toujours ses deux côtés. L'aspect très laxiste, en tout cas, où on est assez flegmatique, on pense à peine au lendemain. Et puis l'aspect très militaire, où quand une décision de couvre-feu est prise et quand l'armée est sur le territoire, là, ça rigole plus et c'est la matraque qui dirige.
Alors, on sait, mais même en Europe, hein, mais on sait aussi qu'en Afrique, il y a énormément de personnes qui vivent dehors, dans la rue, notamment les fameux enfants de la rue de la capitale, hein, sénégalaise.
Alors effectivement, les enfants des rues, qu'on appelle plus communément les talibés, sont vraiment les premières victimes, parce que déjà ils sont pas en santé, ils sont pas du tout en bonne santé, puisqu'ils sont mal nourris, ils dorment dehors, etc. Donc du coup, il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés, et on va d'ailleurs faire un appel dès demain là sur les réseaux sociaux pour les jeunes talibés de Casamance, qui du coup vont être soutenus par des groupes de jeunes. Et ce qui va manquer un petit peu là, c'est de quoi les nourrir. Donc on va essayer de faire une collecte dans ce sens. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les hôpitaux et le milieu médical leur refusent souvent l'accès à ces enfants, parce que de tout temps, en tout cas, ce sont des parias et on les rejette de ce genre de lieu, et encore plus dans la situation actuelle où on préfère apparemment les laisser dehors. Donc là, j'ai quelques témoignages qui parlent de ça et qui sont des témoignages assez violents. Donc c'est un petit peu compliqué. Les ONG sont parties. Les ONG, je dirais, qui sont dans un humanitaire de premier niveau sont parties. Donc du coup, c'est les gens qui se débrouillent un petit peu entre eux et qui créent un propre réseau de solidarité et qui en appellent en tout cas à l'Europe et à la diaspora africaine pour les soutenir.
Cette année 2020, les 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 40 pays africains, devaient rembourser un total de 32 milliards de dollars sur les dettes des pays africains. Paris a obtenu le moratoire de ces dettes. La France voulait une annulation complète de la dette des pays africains. Pour l'instant, elle a obtenu un moratoire du Club de Paris, les pays prêteurs et du G20. Paris affirme en effet qu'un accord est tout à fait en bonne voie. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.